pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau, Mabassarane.
Nous venons aujourd'hui pour soutenir le village de l'eau, de partout, pour le village de l'eau. Parce que là où nous vivons, les problèmes d'eau sont les mêmes. Nous vivons l'accaparement de l'eau par une minorité et nous essayons d'y résister. Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. C'est pour ça que nous sommes venus. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de communiquer, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Mabassarane et soyons unis.
Rappel, manifestation interdite, les 19 et 20.
Bienvenue au village de l'eau. C'était inscrit sur une grande bannière à l'entrée du village de l'eau qui s'est tenue du 16 au 21 juillet 2024 sur la commune de Mel, dans le Poitou. Événement extraordinaire officiellement porté par l'association Attaque et le syndicat Solidaire et organisé sur place par Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et bien d'autres orgas, groupes et collectifs. Deux des temps forts de cette période ont été deux manifestations à l'appel de BNM et des soulèvements, une manifaction pique-nique dans les champs le 19 et une autre à La Rochelle le samedi 20 juillet, manif toutes deux interdites et réprimées par les autorités. Mais le village de l'eau, ça a aussi été une semaine entière d'un formidable bouillon d'intelligence, de rencontres, de formations, d'informations, de tables rondes, conférences, projections, concerts, des événements partout du matin au soir pendant 7 jours, et une formidable envie de cohésion. La répression policière de Sainte-Soline II n'a pas décapité cette lutte, mais l'a au contraire renforcée, galvanisée et engendrée un rapprochement, une fédération, une cohésion de toutes les tribus qui luttent contre les bassines et leur monde. Car lutter contre le monde des bassines, c'est aussi lutter contre les OGM, les pesticides, le béton, le nucléaire et autres instruments de mort. Les bassines ne sont qu'un rouage de ce système agro-industriel au service du capitalisme, du colonialisme et de l'impérialisme. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Premier épisode de cette série, bienvenue au village de l'eau. Juillet 2024, le village de l'eau est accueilli par la commune de Saint-Martin-les-Mels dans les Deux-Sèvres. Un gigantesque campement qui s'étale sur plusieurs hectares autour de la mairie, englobant la ferme municipale de la Génellerie et une portion d'une ravissante vallée où serpente le ruisseau de l'Argentière. Mais pour arriver au village et en ressortir, il va falloir pendant toute la semaine passer des barrages de gendarmes qui prennent les identités, saisissent des tonnes d'objets plus ou moins contondants ou incongrus. L'amende est salée si les Pandores trouvent l'opinel du pique-nique, mais les saisies concernent aussi parapluies, pompes à vélo, piquets de tente, etc. Bonjour Léa.
Bonjour.
Tu es journaliste.
Oui, c'est ça.
C'est compliqué d'accéder au village de l'eau en ce mardi matin.
Oui, en effet, c'est un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à y accéder. Il a fallu passer par évidemment un contrôle, mais en fait, il y a beaucoup de routes qui sont barrées. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver, de savoir comment y accéder, de savoir où se garer. On essaye de se repérer sur la carte, mais comme beaucoup de routes sont barrées, on est obligé de faire demi-tour un petit peu toutes les deux minutes. Au niveau des contrôles, pour ma part, on m'a demandé les papiers du véhicule, mon permis évidemment. Et puis on m'a demandé de sortir de la voiture pour ensuite ouvrir mon coffre. On m'a demandé de re-rentrer dans la voiture, ils ont aussi vérifié les sièges arrière. Et là, ils ont contrôlé mon sac et ils ont contrôlé mon étui à lunettes.
Très dangereux un étui à lunettes, hein. Lancer très fort, ça peut faire mal. Hein.
Bah, en tout cas, ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac et c'est vrai qu'ils ont particulièrement vérifié mon étui à lunettes et mon porte-monnaie.
Tu avais annoncé ta qualité de journaliste.
Je l'ai dit après que j'étais journaliste. Je leur ai demandé si je pouvais parler au brigadier pour avoir des infos.
Et bon. Une carte de presse, non?
Oui, c'est ça.
Et ça impressionne ou ils...
Non, non, non. Non. Enfin, ils m'ont pas spécialement demandé si j'étais journaliste. D'ailleurs, ils m'ont pas posé vraiment de questions, si j'allais sur le village ou pas. Je leur ai dit que j'y allais et que je voulais savoir comment y accéder. Et en fait, ils m'ont dit de prendre une route, de continuer tout droit. Et en fait, à ce niveau-là, la route était bloquée, donc j'ai pas pu non plus y accéder par là. Donc, j'ai fini par renoncer et me garer à côté d'un passage et rentrer.
Aujourd'hui, il est interdit d'avoir un parapluie à Mel. Constat de Sylvain Griffaut, maire de Mel, en conférence de presse avec la première adjointe, Sarah Klingler.
Quand on met autant d'énergie à dire que les gens qui viennent ici sont forcément des violents, il y a pour moi une subjectivité, une manipulation politique qui est honteuse.
Le fait d'interdire les manifestations empêche les organisateurs de canaliser cette violence et de travailler de manière cohérente avec les forces de l'ordre pour qu'elles ne se développent pas. C'est-à-dire qu'une manifestation autorisée, elle est encadrée, elle a un service d'ordre, c'est tout ce qu'on vient de dire sur la signalétique du site. Il y a des consignes qui sont passées, il y a une organisation collective, et de pouvoir du coup donner un espace à une majorité de gens qui viennent pour exercer un droit, qui est quand même un des droits fondamentaux de notre République sociale, démocratique, qui est celui de s'exprimer et celui de manifester. Le fait d'autoriser des manifestations permet réellement de limiter, de canaliser, voire d'empêcher la violence. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation qui va être effectivement très tendue. Moi, je donne régulièrement un exemple. 15 jours après les manifestations de Sainte-Soline, il y a un an et demi, il y a eu une manifestation de protestation contre le projet de la 69. Personne n'en a parlé. Il n'y a eu aucune violence sur celle-ci. On a eu d'autres après, qui ont été interdites. Celle-ci a été autorisée. Il y avait, à peine 200 gendarmes de mobilisés. Il n'y a eu aucune violence. Et personne quasiment n'a parlé, au niveau national, plus ou moins localement, c'est autre chose, mais de cette manifestation-là. Comme quoi, à un moment donné, une manifestation et une protestation qui est autorisée et qui est organisée peut se passer de manière très sereine et très respectueuse. Et c'est ça qui est aussi dommage.
La préfecture peut vous répondre qu'il y avait une réunion vendredi et que tous les organisateurs ne sont pas venus.
Oui, mais il y avait une commission de sécurité ce soir avec du matériel qui n'arrive pas parce qu'il était filtré, qui mettait tout le monde en retard. Mais... Et là, les organisateurs, ils sont sur le village de l'eau. La priorité était la conformité du site pour accueillir 10 000 personnes.
Ça a d'ailleurs déjà été répondu par la préfète dans la communication qui a eu lieu à la sortie de cette réunion-là. Le responsable de la sécurité sur la commune, c'est le maire. Donc quand la préfecture appelle l'ensemble des organisateurs, la commune, à une réunion pour suivre le dossier de sécurité Grand Rassemblement, le maire s'y est rendu, Hervé Auguin, délégué de Sud-Solidaire, s'y est rendu en tant qu'organisateur. Parce que je suis responsable de la sécurité, quand Bassine Nomercier et les sous-mandataires, qui ne sont pas les organisateurs, mais qui portent logistiquement et en termes de programme, de logistique et d'organisation ici, le village de l'eau, on dit, nous, on ne va pas y aller parce que ça va nous faire perdre une demi-journée de plus sur le planning d'organisation. Parce que je suis responsable de la sécurité, je ne leur ai pas imposé de venir. J'aurais pu peut-être leur imposer de venir. Je crois que quand on est responsable de la sécurité, il faut aussi, à un moment donné, peser le pour et le contre de qu'est-ce qui promeut la sécurité d'un événement ou qu'est-ce qui le dessert.
C'est aussi très important de rappeler, il y a deux événements différents qui vont avoir lieu cette semaine. Il y a un village de l'eau, qui est un grand rassemblement autorisé à Sarre-Martin-Emel, et il y a des appels à des manifestations à Saint-Sauvent et à La Rochelle. Et c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes organisateurs. C'est pas la même structure. Juridiquement, on est à deux endroits différents. Il y a une convergence en termes de lutte. Ça, on le nie pas, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus non plus. Mais en même temps, la sécurité du village de l'eau et son organisation est complètement distincte et indépendante de ce qui va se passer à Saint-Sauvent et à La Rochelle. Et ça ne se traite pas au même endroit, au même moment. Et donc, c'est aussi important de ne pas confondre les deux et ne pas créer de confusion. Ce qu'on a beaucoup dans tous les discours, et notamment, on l'appelle la coordination rurale, elle laisse entendre ça aussi, qu'il y a une confusion entre ces deux temps.
Le village de l'eau est ici, les manifestations sont ailleurs. Le village de l'eau était organisé administrativement, couvert en assurance par Sud Solidaire et par Attaque. Ce n'est pas le cas des manifestations.
Les manifestations, elles ne sont toujours pas déclarées. En fait.
Elles sont annoncées. Ce sont la responsabilité de Bassine Nomercier et des mandataires qui ne sont ici que programmateurs. Ici, il y a un support déclaré par deux structures, dont l'assurance et la MAIF, qui assurent l'événement ici. Ces deux associations, Sud Solidaire, qui est un syndicat national, et Attaque, qui est une organisation nationale, portent l'événement Village de l'eau. Et cet événement Village de l'eau est le support d'une programmation de tables rondes, de conférences, etc., etc., et de formation à la désobéissance civile, ce qui n'est pas aujourd'hui complètement interdit. Je crois que quand on vous fait une formation pour savoir comment on se comporte dans un contrôle d'identité, vu que des gens ont des fouilles au corps, etc., etc., à l'extérieur, on comprend aussi pourquoi. Ces mouvements-là forment les gens à savoir être contrôlés, savoir quoi répondre. Des gens vont pouvoir être mis en garde à vue ici. Hier, les personnes qui ramenaient le barnum qui a été confisqué étaient un peu fumasses. Ils viennent sur site pour mettre en place un élément qui est demandé en termes de sécurité sur le plan. on leur confisque la moitié de leur matériel, ça les a pas amusés. Ils auraient pu être mis en garde à vue s'ils avaient monté le ton. Et pourtant, c'est pas des gens qui viennent casser quoi que ce soit ici. Ils viennent construire la sécurité du site. On marche sur la tête, comme diraient certains syndicats agricoles. Enfin, on peut voir systématiquement les choses de deux manières. Ces mouvements sont des mouvements militants. Ils militent et donc ils forment des gens à militer pour cette cause-là. Il va y avoir des manifactions. Il faut reprendre le débrief des soulèvements de la terre qui avaient été faits après Sainte-Soline, où eux-mêmes disaient à quel point ils avaient été perfectibles dans l'organisation. On peut voir la formation des personnes qui vont à la manifestation comme une formation qui va leur permettre d'avoir des comportements qui ne soient pas gérés, mais de savoir comment s'organiser les uns avec les autres pour ne pas subir une grenade, reculer quand il faut reculer. Peut-être qu'il faut aussi que des gens viennent à ces formations pour voir de quoi il s'agit exactement. Je ne les fais pas les formations, mais préempter le contenu d'une formation sans être allé sur place. Mais quand on est un mouvement social, et je crois que les syndicats sont des très bons exemples, tous les syndicats forment leurs militants à encadrer des manifs. Enfin, la CFDT, la CGT, FO, Solidaires, Sud, forment leurs militants à encadrer des manifs pour que ces manifs se passent au mieux. Alors, on peut à la fois vouloir voir l'aspect uniquement violent de former des gens à aller en manifestation, ou aussi l'aspect que des gens qui sont en manifestation puissent se comporter pour éviter de répondre à la violence, voire de se protéger. Quand on demande à une conseillère municipale de ne pas venir avec un parapluie alors qu'elle a son parapluie dans la voiture,
tout le monde.
On ne peut pas avoir un parapluie à Mel aujourd'hui. Parce qu'un parapluie, ça sert à se protéger d'une grenade. C'est l'interprétation que j'en fais, c'est pour ça, effectivement. C'est pas une arme non plus. Qu'on n'ait pas le droit d'agresser, ça, je le partage à 2000%. Qu'on n'ait pas le droit de se défendre dans les images qu'on a vues l'année dernière à Sainte-Soline, je pense que ça aurait été pas mal que certaines personnes aient de quoi au moins se protéger des 5000 grenades qui sont tombées sur les manifestants ce jour-là, qui étaient évaluées par la préfecture à 6 ou 8000. Ça fait environ 0,8 grenades par personne.
Vous attendez combien de personnes aujourd'hui ?
La logistique est faite pour accueillir 6000 personnes en instantané. Le site est capable de nourrir, accueillir en conférence, en caca, en pipi, etc. 6000 personnes en instantané. Après, sur les quelques jours que va durer la manif, il y aura plus de monde. Et là, pour le coup, ça c'est la responsabilité de la collectivité, d'aller vérifier que cette présence-là n'aura pas aucun, mais un moindre impact sur les lieux. On est dans une zone de captage. L'eau qui est bue à Mel est captée un petit peu plus loin ici. La zone de captage rapprochée commence juste après le stade ici. Il faut aller voir le niveau logistique qui a été mis en place. Et les WC, c'est toujours quelque chose qui est très délicat. Il n'y a pas une goutte de pipi qui va tomber dans la zone de captage. Tout est capté, remonté par pompe de relevage, envoyé dans l'assainissement, etc. Enfin, il y a un niveau d'organisation anticipé, préparé, pour faire en sorte que l'événement se déroule en toute quiétude, en toute sérénité, en toute sécurité, en toute tranquillité et en toute salubrité.
Pour ce village de l'eau, Bassine, Non Merci et les soulèvements de la terre ont accompli de véritables exploits logistiques, comme par exemple donc la création de ce système d'égouts. Le village de l'eau va rassembler 8000, 10000, jusqu'à peut-être 15000 campeurs le samedi soir, des gens qu'il va falloir accueillir, nourrir, informer, accompagner. La logistique, on en parle donc avec quelqu'un que vous connaissez déjà, la docteure en sciences de la terre, Anne Morwen-Pastier, que l'on croise ici en régisseuse, Toki-Woki en bandoulière.
Bonjour Anne Morwen.
Bonjour JB.
Aujourd'hui, tu n'interviens pas en tant que docteur en géologie, mais parce que tu portes plein de casquettes et on n'arrive pas à se choper parce que tu cours dans tous les sens avec du câble, avec des trucs, avec des gens qui veulent des trucs et des machins. Comment ça va ?
Ça va bien parce qu'aujourd'hui, ça y est, tout est à peu près en route et du coup, ça commence à être repos pour moi.
Là, on est, si j'ose dire, sur la rue principale du village de l'eau. Dans ton dos, il y a la grande prairie avec des chapiteaux, les stands avec les syndicats. Quand on descend par là-bas, on voit l'entrée. Par ici, il y a cette merveilleuse vallée de l'Argentière qui accueille des chapiteaux. Là. Et puis, il y a des espaces de camping derrière. Quelle réussite, ce village de l'eau. Vous êtes trop forts, les BNM, les soulèvements et tout ça. Vous qui croyez que les gauchistes, c'était des feignants, bravo. Hein.
Ah ouais, non, il y a des gauchistes qui ne sont pas feignants. Et il y a des gauchistes qui, il faut bien le dire, travaillent dur quand même.
Ouais. Quel résultat ?
Bah, franchement, je suis très contente. Depuis le début du montage, je fais des tours de site des fois, même quand je n'ai pas besoin, juste pour prendre l'ambiance et voir les choses qui se montent. Et c'est un peu ça qui fait tenir sur la fatigue, quoi.
On se balade un peu ?
Ouais.
Alors, il y a deux ânes magnifiques, faut pas leur donner à manger aux ânes.
C'est Coco et Quarelle. Et même sur ce chemin, en fait, c'est un truc qui a été très chouette pour cet événement, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont construites pour, et où du coup, on va ressortir plus fort du village de l'eau qu'on ne l'a commencé. Et petit objet anecdotique, mais quand même symbolique, on a des pissotières belles et fonctionnelles, quoi.
Pour hommes, pour femmes et autres.
Pisse debout.
Assis, debout, et il y en a partout.
Et il y en a partout. Il y en a partout parce qu'il y a des enjeux, donc il y a cette...
Quand on vous dit qu'elle est très occupée.
Ouais.
Est-ce que, par hasard, tu aurais déjà fait déployer les tréteaux ?
Je crois bien qu'ils ont été déployés.
T'as fait déployer les plateaux avec les tréteaux ?
Je sais pas, là, j'ai pas cette réponse, du coup.
C'est censé être déposé où ?
Au fond de l'espace concert pour compléter l'espace resto.
Donc voilà, quand tu passes ton temps depuis plusieurs jours, un doctorat en géologie ne prévient pas de la gestion des tréteaux.
Ben non, ouais, c'est ma double casquette. Il y en a, ils sont paysans boulangers, il y en a, sont sociologues vigneronnes. Ben moi, je suis géologue logisticienne.
On était en train de s'extasier sur la montée en qualité et en organisation de la Rochénard à Sainte-Soline 1, à Sainte-Soline 2 jusqu'à aujourd'hui. En fait, pas que humainement, d'ailleurs logistiquement aussi.
Ouais, bah on apprend à chaque événement, on fabrique à chaque événement. Donc là, on a tout un système de plomberie pour préserver l'argentière et la nappe, puisqu'on est dans une zone d'infiltration très rapide. Donc si on est 6000 personnes à faire pipi sur le site, on va avoir du pipi plein la nappe. Donc on a construit tout un système de plomberie, on a construit plein de toilettes sèches. Donc on devient autonome logistiquement à chaque événement sur certains points.
Et avec ce souci de ne pas impacter le site le moins possible.
Ouais, le moins possible, parce que malheureusement, on a dû tondre. Voilà, le chapiteau qu'on a devant nous, il y avait tout un parterre de fleurs. Ça n'allait pas aller pour le chapiteau, donc on a dû le tondre, alors que c'est un espace... Il y a des ruches dans la ferme, mais c'est un des rares trucs qui leur reste à butiner, quoi, dans le coin. Effectivement, on est dans un niveau d'attention au site qui n'est pas très fréquent, quoi.
Peut-être aussi un grand coup de chapeau au courage du maire de oui. Mel, Sylvain, et de ses administrés et de ses adjoints et adjointes. Parce que si ça se fait, c'est parce qu'il y a de ces personnages politiques courageux qui accueillent ce village de l'eau. Super merci et bravo.
Oui, c'est vrai que ça ne serait jamais possible sans le soutien de la mairie de Mel. Et il a fallu passer par des déboires administratifs, quelques pressions de la préfecture auxquelles... Sylvain et le conseil ont su résister. Sans ça, on ne pourrait pas faire un tel événement.
Chaque pôle du site a son importance. Est-ce qu'il y a un endroit en fait, qui te met particulièrement plus en joie qu'un autre ? Un truc dont tu es particulièrement fier ou c'est l'ensemble qui fonctionne ?
J'aime bien l'ensemble, mais j'avoue, il y a une des deux grandes parties du site que je préfère. Il faut dire aussi que l'autre n'est pas vraiment... Les concerts vont commencer de l'autre côté seulement ce soir. Voilà, l'hélicoptère de la gendarmerie que nous avons très régulièrement au-dessus de la tête.
Qui essayait de nous dire tout à l'heure, mais il fallait vraiment tendre l'oreille, qui semblait nous dire que les manifestations de vendredi, samedi sont interdites.
Oui, on m'a dit ça, que l'hélicoptère diffusait des messages de propagande pour dissuader les gens de venir vendredi et samedi. Honnêtement, je ne suis pas sûre que ça marche. Si les gens, ils ont déjà passé des contrôles de police, où certains sont restés 2 heures à se faire contrôler, et ils sont quand même venus, c'est pas un message sur l'hélicoptère qui va les faire partir maintenant.
Alors là, on est dans la prairie du bas, il y a l'argentière qui coule pas très loin, il y a 3 chapiteaux, on est en train de passer devant l'un d'eux où il y a des ateliers, des conférences partout. Ah si, un petit bémol quand même, c'est assez cruel quand on regarde le programme, il y a juste des trucs super intéressants tout le temps. Pas évident d'être partout quand il y a des trucs géniaux à la même heure.
Non mais on s'est dit que 6 jours, ça suffisait quand même. On a densifié, il y avait tellement d'aspects intéressants à aborder. Pas que sur l'eau, mais au-delà, et des implications, des problèmes de l'eau avec surtout les dictatures, par exemple, qui résonnent beaucoup avec l'actualité. Du coup, on avait envie de parler de plein de choses. Et comme on a trouvé ces magnifiques chapiteaux pour abriter autant de choses, c'était chouette. Et puis oui, l'actualité a un peu bouleversé aussi. Il y a des choses qui ont été revues au dernier moment, vu la catastrophe politique actuelle, quoi.
J'ai assisté à cette formation assurée par des gens masqués qui disaient des choses extrêmement pertinentes et très claires sur la garde à vue, comment se comporter en garde à vue, qu'est-ce qu'il faut dire, surtout ne pas dire. On en tire des choses, c'est absolument passionnant. Les intervenants, intervenantes sont remarquables. Grande qualité. Hein. Je tends mon micro depuis 3 jours à des gens, j'entends que des gens qui disent des trucs intelligents.
Ben ouais,
ça fait du bien.
C'est ballot, les gauchistes, ils sont pas trop bêtes, quoi. L'idée d'avoir pris ces 6 jours, c'est d'avoir pris le temps, enfin il y a 2 jours d'action, mais d'avoir pris le temps de se former politiquement ou de se former concrètement, et notamment à l'antirépression. Une de nos envies, c'est que tous les gens qui seront passés par le village de l'eau, quand ils passent en garde à vue, si ça leur arrive, aient les bons réflexes, aussi bien pour leur défense que pour la défense de toutes les copaines. Et ici, on peut le répéter. Donc, des briefs de gens de Legal Team, il y en a pas mal.
On est donc sur cette prairie du bas, hein, où il y a les 3 chapiteaux, et tu es en train de nous parler d'un de tes endroits préférés sur ce site.
Bah, c'est cette prairie, en fait.
D'accord.
Parce qu'elle est plus intimiste que l'autre, que le champ de foire. Il y a la cantine, il y a le gros bar, il y aura les gros concerts. Et ici, on est sur des concerts qui sont plus petits dans le chapiteau Loutre. Le bar, c'est un chapiteau, c'est pas un barnum. Il y a un côté un peu cocon, quoi, d'accord, dans cet espace par rapport à l'autre. Et puis, bah, il y a le stand, magnifique stand Inter-BNM par là-bas.
Où je n'ai pas encore eu le temps de passer, parce qu'en fait, il y en a tellement partout. Là où il y a les syndicats, la tente où il y a le soin, les médics et les copaines de l'Outre Fight Sexism. J'ai passé l'après-midi hier avec les scientifiques en rébellion. Je me dis, comment? Il n'y a pas que la docteur Pastier qui se rebelle, il y en a d'autres. Et j'ai rencontré des gens passionnants qui luttent contre les électroniques, pour ne citer que ceux-là. Je reviens sur ce que tu disais de cette impression de cosy. L'Argentière, bon, qui certes a été canalisée, mais voilà, il reste encore un peu des haies, du bocage, etc. Malgré tout, de la végétation, enfin semi-aquatique, je ne sais pas comment on dit. On est allé chasser la crotte de loutre avec Julien Leguet il y a 2 jours par là. Peut-être que ce qui participe à ce côté un peu cosy, ferait un écrin de verdure. En fait, c'est vachement chouette, cette rivière.
Ouais, cette rivière, elle est très très chouette. On appelle ça la ripisylve, la végétation de bord de rivière, qui est à peu près préservé. Il y a eu des fauches malencontreuses. Mais l'idée, c'est vraiment de préserver l'ensemble du lit majeur de la rivière, de sa végétation. On peut s'approcher, ouais, si tu veux. Moi, j'y connais rien.
Quand on n'y connaît rien, c'est formidable, parce qu'il y a les naturalistes des terres.
Exactement.
Qui sont là et qui font des balades ornithologiques, des explications. Et elles sont formidables.
Ouais. Et dès qu'on s'approche, en fait, là, sur le bord, on a quand même des hautes herbes, parce que je suis quand même pas complètement une quiche en végétation. Des hautes herbes, on a une petite terrasse, et après, on voit des iris des marais, là, typiques de bord de rivière. C'est de la végétation qui a besoin et qui supporte d'être dans un milieu très, très humide. C'est des écosystèmes particuliers qui sont à préserver et pas à tondre pour que ce soit des endroits propres où on voit bien l'eau. Non. En plus, elles font de l'ombre à l'eau de la rivière, donc qui évite de se réchauffer. C'est vraiment des choses à préserver, les ripisylves, et qui vraiment finissent d'être détruites. Ce qui reste du remembrement, ils l'achèvent en ce moment, quoi.
Les naturalistes des terres, notamment, parlent très bien de ça. Alors on pourrait continuer à s'extasier, et avec raison, sur l'aspect logistique qui monte en qualité et en efficacité à chaque fois qu'on se retrouve. C'est absolument remarquable, mais d'être ici, ça me rebooste, ça me fait tellement de bien. Ce qui m'emmène vers le côté humain aussi. Alors, et est-ce que Sainte-Soline y a joué un rôle? Mais j'ai l'impression qu'au-delà de la logistique, aussi humainement, il y a plein de choses vachement intéressantes qui se passent. Je t'avoue que je n'ai jamais fréquenté autant de gens masqués d'un seul coup, surtout en allant dans des formations. Quand j'allais m'égarer un petit peu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il y a 10 ans, alors puis c'est vrai qu'on a toute raison et le droit de se méfier d'une personne qui porte un micro. Je trouvais que les interactions étaient parfois un peu rugueuses, voire pas possibles. Et là, il y a des tribus, on est quand même plein de tribus différentes, convergence des luttes, mais cette impression que tout le monde fait un pas vers l'autre, bah on fait tous un effort pour aller les uns vers les autres. Autre point super positif pour moi, Mexis, et ça c'est depuis le dernier mouvement social de 2023 sur la réforme des retraites, où j'ai jamais vu autant de personnes queer. Qu'est-ce que ça fait comme bien de se dire on est vraiment tous ensemble, et je le vis ici, et je crois qu'on est nombreux, breuses, à vivre ce truc de bon, allez, on va les uns vers les autres là parce qu'il y en a besoin. Peut-être que Sainte-Soline y est pour quelque chose.
Ouais, sûrement. Je pense pas que ça, hein. Il y a le contexte politique au-delà aussi. En tout cas, sur l'afflux de gens, parce qu'on est quand même très très nombreuses sur le site.
Aujourd'hui, jeudi, on est quoi, 6 000?
Ouais, c'est dur à estimer. Hein.
On fuit de bière, on peut savoir.
C'est pas moi la référence bar.
Toi, c'est très tôt, pardon.
Oui, voilà, moi, c'est les barnums, les très tôt, les tables, voilà. Ouais, le contexte politique, faut serrer les coudes. Et puis, quand on s'était vu à Tours, là, un peu une des conclusions du truc, c'était construire les réseaux de la résistance de demain. Et du coup, même au niveau orga, je vais revenir sur des aspects logistiques, mais en fait, de déployer un tel site en si peu de jours, parce qu'on a eu 5 jours de montage, plus des saisies. Hein, on a été un petit peu ralenti quand même. C'est possible parce que il y a un réseau de chapiteaux, que les gens se connaissent, qu'ils arrivent, qui font des îlots autonomes qui abritent justement cette programmation très fournie. On a la méga cantine qui s'organise. Là, on a une dizaine, une quinzaine de cantines différentes qui sont mises ensemble. Les équipes médiques, c'est pareil. On en a de tous les coins de la France. C'est-à-dire, c'est pas Bassinon Mercier et les Soulèvements de la Terre là qui font l'événement. On pourrait dire qu'on coordonne l'événement, mais ceux qui font concrètement l'événement, c'est l'ensemble de tous ces collectifs hyper compétents, un peu spécialisés dans leur domaine. On a les mutuelles de matos, celles de Rennes, celles de Bure. Ça, c'est des forces logistiques incroyables. Du coup, c'est vraiment l'agglomérat de tous ces petits îlots de résistance qui fait qu'un truc comme ça, c'est possible aujourd'hui. Par exemple, à la cantine, eh ben, ils sont échangés des techniques. En 36 heures, la cantine s'est améliorée.
Ça passe dans des détails. J'arrive, j'avais envie de déjeuner ce midi et je vois une queue interminable en me disant « Mais non, il y en a pour trois plombes ». Franchement, en 4 minutes, chronomètre en main, j'ai dû faire 300 mètres de queue. J'ai halluciné. Technique hollandaise ou je sais pas quoi, tu prépares ton bifton, hop, quelqu'un est avec un chapeau à l'entrée du truc et ça envoie.
Ouais, c'est ça, voilà, les Hollandais qui...
Moi, j'ai peur quand je découvre des gauchistes qui découvrent le fordisme.
Mais non, c'est pas le fordisme, c'est un côté un peu d'efficacité, ça permet d'aller jouer aux billes, quoi. Pour moins se fatiguer, pour avoir un peu plus de confort, moi, je suis pas contre... Réussir à manger sans faire 2 heures de queue, je trouve ça vachement bien.
Ah ouais, j'ai apprécié 300 mètres de queue en 4 minutes, mais voilà, jamais on a vu ça.
Ça permet d'aller aux conférences, ça permet de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans. Ça permet de dégager du temps pour faire autre chose, en fait. Le fait d'être un peu efficace, quoi. L'idée, c'est pas de continuer à servir toujours plus de repas, plus vite. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de se libérer de certaines tâches pour avoir du temps pour autre chose, quoi.
J'ai rendez-vous avec Sylvain, le maire de Mel, là, maintenant, au Point Presse. Tu veux bien m'accompagner ?
Ouais.
Allez.
Il va en parler, mais il y a toute une politique sur justement l'aire de captage liée à l'Argentière, le captage de la Chancelée. Il y a une construction avec les agriculteurs locaux pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau de la nappe. On pourrait lui reprocher que c'est un coup de com, un coup de pub ou quelque chose comme ça. Mais
ça n'a pas l'air d'être le genre du gars. Hein.
Ben non, ça s'accompagne d'un travail à long terme. C'est très chouette aussi, quoi.
Puis j'en reviens sur ce sentiment, outre le plaisir de cette convergence, de la rencontre, de tout le monde fait un pas vers l'autre. Ça n'a pas été évident pour personne, mais en fait, ça se fait. J'en reviens à cet autre point, mais que ça fait du bien de baigner dans de l'intelligence et de la lucidité, quoi. Je crois que ça fait plusieurs jours que je suis là, j'ai pas encore entendu une connerie, je crois.
Moi, j'en ai entendu quelques-unes, mais bon... Mais oui, c'est aussi pour ça, c'est très...
Ah, un moustique en voie de disparition. Ah non, c'est un hélico.
C'est hyper kitsch, non?
Ouais, c'est New York 1980.
Attention, manifestation interdite.
Tu peux rire, vas-y.
Bah, je trouve qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, en fait, aussi. Il y a un côté absurde et grotesque dans tout ça, dans ces contrôles qu'on a eus. On a eu des saisies de farine. Les gens, ils se sont fait saisir leurs gourdes d'eau.
Des parapluies saisies.
Tout et n'importe quoi. Ouais. En fait, là, ils ont décidé de déclencher l'arme administrative. Ils en font n'importe quoi. Tu parlais de moustiques, mais en fait, tu vois, les moustiques, c'est nous. Quand on dit on est trop petit pour un truc comme ça, mais est-ce que t'as déjà essayé de dormir avec un nuage de moustiques ? Nous, on est les moustiques, quoi. Eux, c'est l'éléphant, quoi. Ils déploient autant de moyens. C'est ridicule, c'est grotesque. Oui, le barnum de l'espace média.
Et le maire qui est là, on a rendez-vous.
Le maire qui est là.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour. Florian.
Chargé du projet agricole de la commune.
Comment ça va ?
Ça va. Ça va, c'est pas le moment le plus simple, puisqu'on approche de ce qui est annoncé comme un événement dramatique par beaucoup et espéré par certains pour obtenir un moratoire. Mais voilà, moi, tout mon espoir, je le mets dans le fait que ce soit un moment plutôt de fête, parce qu'il y aurait un moratoire demain, je sais pas. Un espoir, quoi. Mais l'espoir fait vivre.
J'ai vaguement googlisé ton nom et on dit élu écologiste, mais je me suis dit, est-ce que ce genre d'étiquette a du sens à la campagne et dans une petite ville comme Mel ? Est-ce que c'est comme ça que tu décrirais ?
Moi, je me définis pas comme écologiste. D'accord. Je pense que Sarah non plus. Je pense que Floriane peut-être un petit peu, mais je pense que à nous trois là, On est probablement une synthèse peut-être un peu plus de gauche que le conseil municipal global. Moi, je pense qu'en fait, il y a des choses très bonnes à prendre chez les insoumis, il y a des choses très bonnes à prendre chez les communistes, il y a des choses très bonnes à prendre chez les Verts, il y a des choses très bonnes à prendre chez Génération Écologie, il y a des choses très bonnes à prendre chez les socialistes, parfois même dans d'autres partis, et que on essaie, nous, de construire et de transformer un petit peu la commune en allant prendre un petit peu partout. Donc c'est un peu difficile de se coller une étiquette quand il y en a plusieurs.
Évidemment, comme de rigueur, un drapeau tricolore et de l'Union européenne sur la façade de la mairie, comme de toute mairie.
Qui n'ont pas été vandalisés.
Et on rentre, c'est la salle du conseil municipal ici?
De la commune déléguée de Saint-Martin. Melle est une commune nouvelle, composée de 5 communes déléguées. La commune centrale géographiquement, c'est la commune de Melle. Et c'est à la mairie de Melle que se passent les conseils dorénavant. Et donc là, c'était la salle du conseil de la mairie déléguée de Saint-Martin.
Et donc, il est tout à fait normal et protocolaire qu'on y trouve un portrait du président de la République.
Oui, parce que c'est toujours une mairie déléguée. Ce n'est pas un bâtiment communal comme un autre. Et donc, effectivement, il est soumis aux mêmes aux contraintes, entre guillemets, et la préséance
républicaine.
Voilà.
Alors avant de nous lancer dans ce qui nous occupe aujourd'hui, mais quel joli coin, enfin quelle jolie ville, 3 églises romanes, un paysage magnifique, cette vallée de l'Argentière qui est juste un enchantement. C'est chouette votre coin, c'est vraiment très agréable de pouvoir y venir. Un coin qui a aussi une tradition de résistance, c'est un pays huguenot ici, il y a eu des persécutions, des gens qui depuis des siècles savent lutter. Est-ce qu'on peut parler d'une tradition de la lutte ?
Tradition de la lutte, je ne sais pas, parce que c'est des formes de résistance aussi, y compris dans l'histoire, qui ont, par exemple, si on fait allusion aux huguenots, qui n'ont pas été des traditions de révolte violente comme ça l'a été dans les Cévennes, mais par contre, une vraie tradition de l'esprit critique, une tradition de l'émancipation, d'engagement et d'investissement au service d'un certain nombre de valeurs et de se donner les moyens de les porter à différents espaces. Effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce territoire qui fait que c'est un territoire qui reste vivant et qui a un certain nombre d'exemples comme ça d'espaces d'émancipation. Un exemple que j'aime bien, moi, au début du 19e siècle, c'est créer un journal qui s'appelait La Fraternité sous la forme d'une coopérative dont les abonnés étaient les actionnaires. Donc on est vraiment dans les prémices de cette question de comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour se doter aussi d'un espace, là en l'occurrence, d'information et de formation qui répondent à des valeurs et à des enjeux de société qui étaient partagés par les actionnaires, c'est-à-dire les abonnés de ce journal, et qui s'ancre complètement dans la tradition protestante puisqu'il était porté, animé beaucoup par des libres penseurs, des protestants et des anticléricaux. Et c'est un journal qui a beaucoup propagé des modèles de coopératives agricoles et qui a contribué vraiment à ce que les Deux-Sèvres soient une terre de coopératives. On parle de la CAMIF, des centres d'assurance mutualiste, de banques mutualistes. Elles sont issues de cette tradition et nombre de ces structures ont été créées par des Mélois au sens large, pas seulement des habitants de la commune de Melle, mais des habitants du pays Mélois qui avaient cette culture-là.
Sarah, Floriane, vous êtes membre de l'équipe municipale, vous êtes adjointe?
Oui, on est toutes les deux adjointes. Donc Sarah est la première adjointe de l'équipe municipale. Et moi, je suis adjointe sur le foncier agricole et le projet de la ferme de la Genellerie, qui porte un projet d'installer une activité agricole et alimentaire.
Parlons de ce lieu aussi qui nous accueille. Qu'est-ce que c'est que cette ferme? Qu'est-ce que c'est que cette vallée de l'Argentière?
La ferme a été acquise par la mairie de Saint-Martin en 2016. Autrefois, la ferme comptait 30 hectares en polyculture élevage. Donc il y avait des vaches, des chevaux, des chèvres. Il y avait de l'attraction animale aussi sur cette ferme. Elle a cessé son activité début des années 90. Donc on hérite d'un lieu avec un patrimoine très fort, parce qu'on est sur des bâtiments qui sont restés en pierre de taille et en moellon avec des vieilles charpentes en bois. Et c'est pas des espaces qui ont été transformés par l'ère du béton. Aujourd'hui, la ferme elle compte 4 hectares seulement parce que le reste est parti dans les lotissements ou à l'agrandissement d'autres exploitations. On peut dire que la ferme a été acquise en 2016 par la mairie de Saint-Martin pour continuer le projet de lotissement au départ. C'est en 2020, quand on a été élu, qu'on a réorienté le projet vers un projet de reconquête d'une ferme avec une production agricole. Donc ça a été motivé par plusieurs regards, notamment la récente fusion des 5 communes dont on a parlé, Saint-Martin, Mel, Pézel-Thore, Saint-Léger-de-la-Martinière et Mazières-sur-Béronne. Dans ces 5 communes, il y avait d'autres surfaces dédiées à lotir. Et donc, ça avait plus vraiment de sens de poursuivre un projet de lotissement ici. La particularité, c'est aussi qu'on est en plein milieu de l'aire de captage d'eau potable de la Chancelée. Et la vallée de l'Argentière est une zone identifiée de transfert rapide vers le point de captage. Donc l'aire de captage, elle est à moins d'un kilomètre d'ici, au sud, et elle alimente en eau à peu près 4000 habitants sur les 6500 habitants de Mel. Donc cette eau, elle a des pressions identifiées au niveau de la qualité, qui sont des pressions agricoles, au niveau des produits phytosanitaires et des nitrates. Donc l'objet de la commune de Mel, c'est de porter un projet agricole, mais les surfaces actuelles ne le permettent pas, d'autant plus parce que les surfaces de prairies du fond de vallée de l'Argentière, le souhait de la municipalité, c'est de les conserver en prairies pour la ressource en eau potable.
Il me semble que tout le monde fait rigoureusement attention, mais c'est facile parce qu'ils ont installé des toilettes sèches pour faire pipi assis, debout, partout. Et je crois que tout le monde fait du coup très attention à ne pas faire pipi n'importe où, parce qu'on a bien compris que sinon ça va dans la nappe et qu'il faut pas faire ça. Et c'est assez fascinant de voir que les gens ont intégré ça.
Ouais, tout à fait. Les gens ont facilement intégré ça parce que ça a été bien porté aussi comme message par l'organisation. Il y a un réseau de tout à l'égout qui a été créé pour le village de l'eau et pour permettre d'avoir des toilettes partout et donc éviter de faire ses besoins n'importe où.
Cet exemple des toilettes sèches et de ce réseau tout à l'égout construit ad hoc pour l'événement, il est aussi très symbolique de dire que c'est tout à fait possible de penser une cohabitation avec la nature, avec différents environnements, et de développer nos activités humaines avec nos préoccupations, et de le faire dans des espaces en pensant notre rapport à la nature et en s'y adaptant en bonne intelligence. Et que quand les choses sont menées correctement, qu'elles sont explicitées, qu'elles sont comprises, ça se fait naturellement en fait.
Par exemple, au-delà des toilettes sèches sur la vallée de l'Argentière, à côté du camping des bénévoles, il y a une RBC. RBC, c'est réserve de biodiversité communale. Donc c'est à peu près 1 hectare qui ont été sanctuarisés pour l'accueil de la biodiversité. Sur cette RBC particulièrement, il y a de l'accueil d'oiseaux migrateurs, donc des grues, des cigognes qui se posent là, qui font une halte et qui repartent. Et du coup, c'était important aussi pour nous que cette RBC soit préservée de toute intrusion humaine pendant le festival de l'eau. Et pour l'instant, j'ai vu personne y pénétrer. C'est vraiment respecté.
Et donc avoir conscience que ce lieu qui nous accueille, c'est pas seulement un chouette lieu pour planter sa tente et assister à des conférences et des concerts. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un laboratoire immense aussi. Ce lieu, il est en train de se transformer. Il y a ce sentiment qu'on est dans un creuset d'expérimentation ici. Il est en évolution, si on y revient dans un an, il sera peut-être plus pareil.
Complètement, puis on l'espère aussi, parce que on travaille avec la SAFER à une animation foncière et donc à des acquisitions agricoles, donc on espère que le projet d'installer une ferme ici aura avancé. Actuellement, c'est un entre-deux qui a été installé avec des parcelles de potager qui ont été mis à disposition du Café du Boulevard, parce que le Café du Boulevard est venu vers la municipalité avec cette demande. Ils étaient déjà dans des cultures potagères avant. Et là, donc, ça prend tout son sens que dans l'intervalle de temps où la ferme était vide d'activités d'humains et était un peu en train de se délabrer, et ben, ça nous semblait important de pouvoir installer quelqu'un. Et l'entre-deux qui a été trouvé, ben, c'est d'installer des parcelles à taille potagère. Donc, le Café du Boulevard s'est vraiment investi dans ce projet d'autoconsommation pour leur restaurant, enfin, qui est plutôt une cantine et qui fournit quand même 70 repas par jour aux habitants de Mel. Donc, ça a vraiment du sens de cultiver à moins d'un kilomètre du restaurant. Ça évite de penser à la chaîne du froid ou des choses comme ça. Et ça a du sens pour eux aussi pour réduire les pertes que les légumes qui sont cultivés aussi ici, bah même s'ils sont moches ou tordus, ils arrivent en cuisine et ils sont acceptés en cuisine. Et pour nous, municipalité, ce qui a aussi donné du sens, c'est que ça a créé de l'emploi. Parce que Mathieu, par exemple, a été recruté par le Café du Boulevard pour faire le maraîchage potager. Il y a aussi un autre poste qui a été créé en cuisine, justement, pour permettre ce temps supplémentaire nécessaire pour le lavage et l'épluchage des légumes quand ils sont tordus. Voilà, mine de rien, ça représente du temps supplémentaire. Et le Café du Boulevard a aussi une dimension sur les vieux outils, les vieilles machines, les vieux tracteurs. Donc, ils sont en train de activement préparer de reprendre la traction animale pour la culture.
Sur cette question de la pratique agricole ici, comme Florian l'a souligné, aujourd'hui, on a peu de terres avec cette ferme, pas forcément des terres de très bonne qualité. Donc là, on a commencé avec ce qui était adapté à cette ferme, c'est-à-dire de la culture potagère. C'est pas maraîchère au sens où on n'a pas les hectares qu'il faut pour réellement avoir une production et vivre d'une exploitation, d'une production maraîchère en direct. Et donc, c'est tout le travail qu'on fait d'animation foncière qui vise à pouvoir diversifier les terres de cette ferme et donc de diversifier les activités agricoles qui pourront s'y déployer aussi.
Tout le monde se rejoint sur ce point. Il y a une qualité d'organisation de tous ces collectifs, des soulèvements de la terre, de bassines, non merci, et de tous les gens qui participent à ce village de l'eau. Ça tient en deux syllabes. Merci. Merci, Mel. Donc, ça fait trois syllabes. Merci à ces élus. Merci aux administrés de Mel d'avoir le courage, la gentillesse d'accueillir cet événement. Et je crois que tout le monde est sensible au courage politique de cette équipe municipale. Ça fait du bien et chapeau à vous. Je note, parce que je me balade beaucoup sur le site depuis trois jours, les efforts, le sérieux et la bienveillance des gens qui organisent cet événement ici sur place, bassines non merci, soulèvements et autres, attaques, solidaires et tant d'autres, et du sérieux pour que ça se passe bien, que les gens se sentent en sécurité. Or, on a déjà pu le constater et en parler. Du côté des autorités et de l'actuel ministre de l'Intérieur, si j'ai bien compris, la même volonté à ce que les choses se passent bien, cette volonté ne semble pas partagée, Sylvain. Je te vois sourire. Exercice de diplomatie et de maîtrise de soi. Tu m'as beaucoup impressionné à la conférence de presse l'autre jour, pas un mot plus haut que l'autre, mais tellement ferme et tellement clair.
Qu'est-ce que j'aurais aimé accueillir Gérald Darmanin à la Générale ? Ça aurait eu du sens de voir sur place. C'est vrai qu'il est venu à Niort parce que l'événement sur la semaine déborde des Deux-Sèvres. Hein. Il y a vraiment le village de l'eau ici et puis les programmateurs du village de l'eau ont aussi prévu d'autres actions qui sont dans la Vienne et à La Rochelle, donc de l'interdépartemental qui nécessite effectivement un pilotage un peu plus haut. Et voilà, ce qui me désole, c'est que je crois qu'il y avait eu une vraie tension, que beaucoup de gens ont fait en sorte que ces tensions s'apaisent en communiquant de manière apaisée, sereine, et en essayant d'expliquer ce qui va se passer. Je crois que les soulèvements de la terre, en premier lieu, avaient non pas rétro-pédalé, mais tout en assumant leur mode d'action, avaient expliqué que ces modes d'action, cette année, tenteraient de jamais aller à l'affrontement et de rester dans un mode de pique-nique sur un grand lieu de résistance, parce que tout à l'heure, Sarah a parlé du Mélois, mais le Poitou est concerné par cet esprit de résistance qui l'a habité, et en particulier la forêt de Saint-Sauvent, où normalement beaucoup de participants doivent se rendre demain. Je pense que parfois, il faut venir sur place pour se rendre compte du niveau auquel on veut gérer les choses. Là, pour le coup, le niveau est un petit peu serré.
En ce qui concerne vos administrés, les gens qui vivent ici, les citoyens et citoyennes d'ici prennent la chose comment ? Vous vous sentez soutenu ? Est-ce qu'il y a de la critique ou de la crainte ? Les gens qui vivent ici aussi sont courageux et il faut les remercier d'accueillir cet événement.
Il y a deux manières de le voir. Il y a beaucoup de Mélois qui viennent sur le village de l'eau, qu'on croise les uns les autres, qui sont venus visiter la ferme de la Générale pour les visites, qui viennent parce qu'ils sont militants aussi et qui partagent cette cause, qui viennent par curiosité pour se rendre compte si vraiment ce qu'on leur a montré, une certaine presse, est vraiment réel. Ils repartent, pour beaucoup d'entre eux, rassurés en se disant « mais en fait, on nous a annoncé qu'on allait arriver au milieu d'un camp d'entraînement du djihad, mais en réalité pas du tout. On est plutôt au milieu d'une forme de festival, même si c'est un festival très réflexif et très penseur. Et puis, il y a ceux qui déversent leur bile à travers les réseaux sociaux, qui le font de manière anonyme, qui sont quelques-uns et qui en entraînent d'autres. Mais je crois que peut-être qu'il faut arrêter parfois de regarder les commentaires de ceux qui se cachent derrière la toile pour verser leur bile et que quelques personnes sont venues nous voir parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on ait pris ces décisions, parce qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils pouvaient mal circuler. Ils le disent, et la majorité des gens qui ne partagent pas forcément nos opinions, mais qui le disent face à face de manière correcte, pas forcément cordiale, mais en tout cas correcte et respectueuse. Et je crois qu'on a été élus sur un programme qui voulait donner la parole aux citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui partagent notre choix. Ben, faut aussi, effectivement, prendre des décisions qui les représentent. Je fais pas de foot, et pourtant, on aura mis quasiment 400 000 euros dans l'éclairage du foot. Et est-ce que, pour autant, on n'aurait pas dû le faire parce qu'il y a pas une majorité de gens qui font du foot? Je sais pas. Enfin, on mène une politique qui cherche à faire en sorte que les gens continuent à s'engager. Et je fais le lien avec la question à laquelle Sarah a répondu au départ. C'est un territoire engagé, c'est un territoire d'engagement. Et je pense que notre responsabilité, c'est de faire en sorte que, avant nous, il y avait un vrai engagement dans ce territoire. Beaucoup de gens investis. Il y en a encore beaucoup, peut-être un peu plus. D'autres manières, des jeunes qui s'engagent aujourd'hui de manière plus militante peut-être que leurs aînés, et qu'après nous, ben, il faudra encore des gens qui s'engagent et qu'il faut qu'on laisse cette trace.
Est-ce que vous vous sentez entre le marteau et l'enclume? Je ne sais pas, mais Darmanin, c'est pas très malin ce qu'il fait. Enfin, ça donne l'impression qu'on cherche à acculer les gens à la faute. Bloquer un camion qui apporte des barnums dont on a besoin pour la sécurité, ou bloquer du matériel médical ou des extincteurs. Vous avez aussi une intelligence, un truc posé.
Personnellement, moi, je n'ai pas du tout un fonctionnement dans le rapport de force. Ce n'est pas mon truc. Par contre, je respecte toujours ce que pensent les autres. Si je respecte les choix des autres, eh ben, j'aimerais qu'ils respectent aussi mes choix à moi d'engagement et de notre mandat municipal qui veut soutenir la cause. C'est comme ça que je le vois.
Sarah ?
Puis en fait, on sait pourquoi on accueille ce village. On accueille ce village pour que ce soit un espace de réflexion, de mise en commun, de partage, de points de vue différents, d'information, de compréhension des enjeux et de médiatisation de ces enjeux. Bah, notre responsabilité, c'est de faire de sorte que ça se fasse, que ça se fasse bien, que ça se fasse de façon sereine et sécure pour tout le monde. Et voilà, donc quand dans l'adversité, vous face à certaines tensions ou problématiques, et ben, on trouve une solution pour que ça aille mieux. On n'est pas sur un terrain de guerre, on n'est pas en tension, donc on est là pour faire de sorte que les choses se mettent en œuvre sereinement.
Mon regret, c'est tout ce qui passe dans les médias sur la tension des forces de l'ordre ou les choix du Premier ministre, etc., et ben, en fait, que ça détourne le regard de la cause, quoi. On regarde les conséquences. Il faut vraiment s'attacher à la cause, le pourquoi on le fait. C'est là, en fait, qu'on essaye de réorienter le propos pour que les gens vraiment puissent observer la cause et pas avoir juste des visières sur la conséquence.
Il y a bien des hommes et des femmes politiques qui pourraient venir prendre des leçons de politique et de citoyenneté ici à Mel, et puis surtout de self-control, de respect de soi-même et des autres. Et de... J'étais très impressionné par votre conférence de presse. Vous m'avez donné une impression de droit dans ses bottes, d'être bien ancré dans sa dignité et dans son... Pareil, j'ai pas envie de dire bon droit, mais en fait c'était un peu ça. Vous savez ce que vous faites en toute responsabilité, et ça se voit dans la manière dont vous parlez et dont vous dites clairement les choses. Faut monter une école de politique, Amel.
C'est moi, ce qui se passe,
non ? Sarah et moi, vieille Florian, on est déjà peut-être des vieux. Enfin, je suis le plus vieux des trois, à 51 ans. On a une équipe très diverse avec tout un tas d'âges, des élus plus expérimentés que nous qui ont choisi aussi, dans ce mandat-là, de laisser la place de maire ou des adjoints à des plus jeunes qu'eux. C'est pas simple pour eux. C'est pas ce qu'on mène aujourd'hui, là, c'est pas forcément leur logiciel. Peut-être qu'ils seraient plus rétifs dès qu'il y a un risque. Je crois qu'aujourd'hui, en politique, si on prend plus de risques, on prend le risque, pour le coup, de laisser glisser les choses qui glissent depuis un moment. Il y a plein de nouvelles générations qui en ont marre qu'on leur resserve des recettes dont les personnes qui leur servent savent qu'elles ne marchent pas. Et qui pourtant leur disent, ben non, faut qu'on continue comme avant parce qu'au moins on est sûr d'échouer. Quand on n'est pas sûr de réussir, on préférerait être sûr d'échouer. Ben, être sûr d'échouer, c'est être sûr d'échouer sur la rive du RN, ça c'est sûr. J'ai la prétention de penser que certains de nos projets, Sarah, elle mène un projet autour de l'écoquartier culturel et créatif de Ménoc, qui est un quartier en centre-ville qu'on cherche à faire réhabiter au maximum. On a mis le pied dans la porte au niveau communautaire, et c'est pour un exemple, hein, de reprendre une friche dans laquelle quasiment aussitôt plus de 20 artisans, artistes, artisans d'art se sont installés. Dans ces 20-là, c'est 5 enfants de plus à l'école. Donc moi, les gens qui viennent critiquer notre politique alors qu'ils voient les effectifs des écoles descendre et que c'est pour ça qu'ils se radicalisent en disant notre territoire n'a pas d'avenir, eh ben, menons des politiques qui intéressent les jeunes générations, pas des politiques qui voudraient que les jeunes générations fassent comme on faisait avant. Je dis, non, à chaque génération, ses choix, à chaque génération, sa manière aussi de faire. Certes, ben, peut-être qu'à force de reculer l'âge de donner le choix à ces jeunes générations, eh ben, elles se radicalisent. C'est pas une solution, il faut urgemment qu'on donne la parole et qu'on donne les manettes à ces générations plus jeunes.
Moi, je trouve qu'on fait une politique pour demain et pas pour hier. Vraiment, on se projette dans des programmes où, donc Sylvain vient de parler de l'éco-quartier culturel et créatif, il y a un schéma de déplacement, il y a un projet agricole et alimentaire, donc on est dans des projets de 2030 et pas des projets pour hier. On a envie de porter ça.
Toujours autour de l'accueil au village de l'eau, point brief du mardi 16 au soir, ouvert par Julien Leguet de Bassine Non Merci, avec un rappel sur l'histoire de cette vallée de l'Argentière.
L'Argentière, d'où vient son nom ? À l'époque carolingienne, pendant 200 ans et 200 ans seulement, son fond de vallée et tout un tas d'autres vallées et de coteaux des Edomelles ont été creusés pour extraire du calcaire de ce qu'on appelle de la galène. Et la galène, dedans, il y a de l'argent et du plomb. Et en fait, pendant 200 ans, on a fait cramer toutes les forêts alentour pour faire fondre de l'argent et battre monnaie. C'était un des trois seuls endroits dans l'Empire carolingien qui prenait largement sur l'Allemagne où on battait monnaie. Mel, en latin, c'est metulum, c'est le métal. Voilà. Et un jour, avec Sylvain, il nous montrait, ben là, nous, la mairie, on a ça, on a ça. Et quand on a vu ce joyau-là, quand on a vu cette rivière qui serpentait en bas, mais qui ne serpente pas assez, hein, on va lui réapprendre à serpenter, à faire des méandres. Et bien quand on a vu qu'il y avait tout ça qui appartenait à une commune et qui était prête à la mettre au profit d'une lutte pour un bien commun, l'atelier municipal, le terrain de foot, la vallée de l'Argentière, la ferme de la Génellerie, et que tout ça c'était possible de s'y projeter pour nous accueillir, pour vous accueillir, ben on a dit banco, c'est cette base-là, c'est ce cocon-là dont on a besoin pour se réunir. Et vous aurez compris qu'on a choisi une formule différente des autres manifestations habituelles. On a voulu s'inscrire sur le temps plus long. On a voulu se donner du temps pour réfléchir, pour faire société, pour faire réseau. Et évidemment qu'il y aura des manifestations, qu'il va y avoir des briefs et qu'on va discuter de comment on va vivre ce jour-là. Mais là, il y a trois jours à vivre qui doivent résolument nous tourner vers de l'espoir, vers le fait qu'on a une responsabilité forte vraiment à faire réseau et à résister et à construire. Et la vallée de l'Argentière est peut-être une des premières bases sur lesquelles on pourra réfléchir. La vallée de l'Argentière, c'est 600 hectares avec un captage d'eau potable à 3 km d'ici. Ce captage d'eau potable, il alimente les 5000 habitants de Mel. Et si on est capable de maintenir une agriculture durable, sans pesticides, sur ces 600 hectares, on préserve la ressource en eau potable pour les habitants pour toutes les décennies à venir. Ben c'est sur ce genre d'éléments très concrets, de projets de société où on peut s'affranchir de toutes les logiques d'accaparement parce qu'il y a des communes, parce qu'il y a des possibilités de financer ensemble, de faire des GFA, etc., et ben qu'on doit construire des alternatives. Et la vallée de l'Argentière en est une. La vallée de l'Argentière, je parle là, qu'est-ce que je suis gonflé, au nom de la loutre qui dort en bas, qui se réveille quand vous dormez, et ben au nom de la loutre, bienvenue au village de l'eau. Nobassaron!
On souhaitait aussi faire une prise de parole au nom de toutes les autres organisations. Nous venons aujourd'hui pour soutenir le village de l'eau de partout, de tous les départements, de toutes les régions, de d'autres pays et même d'autres continents. Aujourd'hui, nous venons pour le village de l'eau parce que là où nous habitons, là où nous vivons, les problèmes d'eau sont les mêmes. À chaque fois, nous vivons l'accaparement de l'eau par une minorité et nous essayons d'y résister. Donc, pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. C'est pour ça que nous sommes venus. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de communiquer, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Voilà. Merci, Nobassaron, et soyons unis.
Et on envoie plein d'énergie, vous savez, il y a 15 convois qui sont en route pour nous rejoindre, qui vont arriver demain et après-demain. On envoie un gros big up et un gros, si on peut se faire un gros, ça vous dit ?
Dernier point important pour vivre ensemble sereinement sur ce village de l'eau, avec les loutres fight sexism. Eh ben ouais. Le sexisme, le patriarcat et les violences qui en découlent, c'est dans toute la société, y compris dans des milieux qui se pensent pourtant militants, disons de gauche. De fait, la lutte commence par le respect que tout le monde se doit. Et ça implique ouverture, écoute, réflexion et déconstruction. Et ben voilà, le grand mot est lâché.
Bonsoir tout le monde, on profite de cette incroyable assemblée. Pour le moment, on n'a jamais eu autant d'attention en même temps. Déjà, bienvenue au village de l'eau, merci d'être là. Nous, on est le groupe LFS, c'est l'Outre Fight Sexism. Et on est le dispositif anti-violence sexiste et sexuelle qui va être actif tout le long du village. Voilà. On est basé à la Tente des Merveilles qui est dans la base soins. La manière que vous pouvez avoir de venir nous quérir, c'est de vous rendre à l'accueil du pôle soins ou d'appeler le numéro d'urgence qui est inscrit un peu partout sur le site. C'est le numéro qu'on partage avec la veille. La veille, c'est l'organisme qui va faire des maraudes sur site. C'est les personnes qui vont avoir des gilets jaunes et que vous pouvez venir voir si vous êtes témoin ou victime d'une situation problématique. Et après, on va vous rediriger vers les personnes habilitées à vous accompagner. Du coup, pour faire un petit speech plus spécifique sur les violences sexistes et sexuelles, première chose à dire, attention, fun fact, c'est pas parce qu'on est dans un milieu militant de gauche qu'il ne se passe rien. Voilà, donc l'idée c'est qu'on est une communauté, on est ensemble et on ne va pas externaliser la question du soin, mais bien la prendre en charge collectivement. L'idée c'est qu'on fasse gaffe à nous, qu'on fasse gaffe à nos potes, qu'on fasse gaffe à nos comportements et qu'on fasse en sorte que les choses se passent bien pour toutes les personnes qui sont d'une manière ou d'une autre des potentielles victimes des oppressions systémiques. Tout ce qui comporte des situations de domination suivant l'identité de la personne. L'identité de la personne, ça va être son genre, son orientation sexuelle, sa race, sa couleur de peau, mais aussi son rapport à la classe, à l'argent. Et nous, ce qui va nous intéresser, enfin, particulièrement dans notre team, c'est la question des violences sexistes et sexuelles et qui, du coup, implique fortement la question du genre. Par exemple, quand on est une personne qui n'est pas un homme cisgenre, on va avoir plus tendance à subir des violences sexistes et sexuelles. Être une personne cisgenre, ça veut dire qu'on se reconnaît dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Par exemple, moi, quand je suis née, on a dit que j'étais une fille et aujourd'hui, je me reconnais dans cette identité, je me reconnais comme étant une femme. Il y a plein de personnes pour qui ce n'est pas le cas. C'est des personnes qui, du coup, vont être dans la catégorie des transidentités. Et c'est aussi des violences qui sont répandues, qui existent, c'est les violences transphobes. Ça peut se manifester de plusieurs manières. La manière la plus courante et la plus commune, c'est de mégenrer une personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le bon genre pour parler d'elle. C'est OK de se tromper. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on part d'une présomption de bienveillance, qui est que des fois, on fait des erreurs, on peut se le faire remarquer et on peut changer. On peut aller aussi dans cette direction-là. On prend soin aussi de nous, quoi. Et c'est ce qu'on a envie de porter, c'est d'être dans un truc de transformation de nos milieux pour aller vers toujours plus de soins. Du coup, nous, ce qu'on fait à LFS, c'est de proposer des créneaux d'écoute pour les personnes qui ont subi des agressions. Légitimez-vous sur ces questions, on est ensemble. Vous avez de l'énergie et vous avez du pouvoir et vous avez du discernement pour vous rendre compte quand il y a des trucs qui ne sont pas OK. Et du coup, faites-vous confiance là-dessus, n'ayez pas peur d'intervenir. Vous en êtes capable. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide et de soutien, vous venez nous voir, on est là. Dernier petit truc, une règle qu'on se propose collectivement sur le camp, c'est qu'il va faire très chaud. Néanmoins, on aimerait que personne ne puisse se mettre torse nu. On garde le haut. Tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir être à moitié nu sans être sexisé, c'est-à-dire sans être envoyé à son corps de manière sexuelle. Les personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres, si elles se mettent nues, il y a de fortes chances qu'elles soient sexisées. Du coup, ça veut dire que c'est un privilège. Et dans nos milieux, on essaye du mieux possible de distribuer les privilèges et que les personnes qui en ont beaucoup puissent en laisser, en lâcher quelques-uns. Voilà, merci beaucoup d'être là.
Donc on me dit qu'il faut ramener les assiettes à la cantine. Voilà.
Et voilà les amis, c'est ici la fin du premier épisode de cette série « Bienvenue au village de l'eau » à télécharger sur notre site polémiquecestlavoixoff.com. Avant de se quitter, gros bisous aux copains de la méga radio. On se retrouve quant à nous très bientôt sur votre radio préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No basaran.